Merci. Alors, un petit rappel de ce matin qui nous met en contexte. On est passé d'une perspective 19e siècle sur la fécondation artificielle. Alors, il y a un ouvrage de 1885 du docteur Louis Germant, qui ne manque pas de sel, et où l'insémination artificielle est vue comme une réponse au déclin démographique français. Et donc, il est. Cette réponse est le vecteur d'un eugénisme national. Nous voyons dans certains départements du Sud-Est l'élément italien se substituer à l'élément français. Et pour répondre aux réticences des catholiques, il justifie l'insémination artificielle en disant que l'évangile prône croissez et multipliez. Alors, il se trompe de référence, évidemment, ce n'est pas l'évangile, c'est la Genèse. Mais il dit une chose assez intéressante, c'est qu'il parle, il faut quand même que le clergé reconnaisse les droits et les devoirs de la science. Alors on voit bien là déjà les droits de la science, c'est bien ça dont il est question. Alors Jacques Testard, le biologiste qui a été avec... Friedman, à l'origine de la naissance d'Amandine, qui lui est le prophète contestataire de la procréation médicalement assistée, dans un ouvrage récent, Faire des enfants demain, dénonce dans le diagnostic préimplantatoire et l'assistance médicale associée à l'assistance médicale à la procréation un eugénisme mou et démocratique, par opposition à un eugénisme dur. On pourrait dire d'État, comme le nazisme. Et contre la médicalisation de la procréation, alors lui, il prône le bricolage, le fait maison. Donc, vous voyez, on est passé d'un eugénisme national à voilà, une dénonciation de l'eugénisme, et puis du contrôle médical à bon, homemade. Il parle d'aide conviviale à la procréation. Et il donne en exemple les couples de lesbiennes qui s'inséminent elles-mêmes. Enfin, voilà. Alors, on est passé de l'enfant à tout prix, c'est la psychanalyste Geneviève Delezy de Parseval qui accompagne, qui est une des pionnières de l'accompagnement des couples en PMA, à la famille à tout prix. Ça, c'est son ouvrage plus récent. Et effectivement, aujourd'hui, c'est l'enfant. On dit que c'est l'enfant qui fait la famille. Le couple étant devenu précaire, eh bien, on considère que c'est l'enfant qui fait la famille. Et alors qu'on pouvait, on pourrait dire pour certains couples que le couple est à l'épreuve de la PMA, aujourd'hui, certains couples, notamment homosexuels, sont à la preuve. La PMA est pour eux la preuve qu'ils sont un couple, qu'ils sont une famille. Donc, on a une... inversion. Et donc, cette psychanalyste est tout à fait favorable aux mères porteuses, etc. Ce n'est pas du tout d'avis du pédopsychiatre Christian Flavigny qui nous annonce un avis de tempête sur la famille. Alors, l'assistance médicale à la procréation, défi aux éthiques chrétiennes. Oui, ça nous pose question, chrétiens de toute confession. Alors, j'aimerais d'abord commencer par des histoires de personnes. Et ça fera écho, d'ailleurs, à l'intervention de notre psychologue de ce matin, en opposant les narrations de Rachel et d'Anne dans la Bible. Ensuite, je reprendrai ce débat de l'assistance médicale à la procréation, qui a fait débat au sein du christianisme. Tous les chrétiens n'ont pas la même approche. Donc, voilà, c'est intéressant d'avoir une approche historique et comparative. Je me poserai la question, est-ce que voilà, la PMA, aujourd'hui, avec les demandes sociétales, met la famille en danger? La nature résiste. Alors, ça, c'est un point que j'expliquerai. L'assistance médicale à la procréation, quelle éthique sociale? Thèse théoéthique sur l'assistance médicale à la procréation, conclusion. Alors, oui, donc là, j'avance trop vite. Alors, pour commencer par des histoires de personnes. Vous vous rappelez de l'histoire de Jacob, de Léa et Rachel. Jacob qui est obligé d'épouser Léa pour avoir Rachel. Et Dieu voit que Léa n'est pas aimée et la rend féconde. Et Rachel est jalouse. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Rachel dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir. » C'est quand même violent. Comment réagit l'époux? Il se met en colère. Et il dit à Rachel, « Suis-je donc à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Violent désir d'enfant de Rachel qui effraie Jacob. Violente jalousie aussi. Je pense que la colère de Jacob est due aussi à cette frayeur. Et il dit, mais moi je ne suis pas Dieu. Mais Rachel dit, mais moi j'ai une solution. La procréation par servante assistée. Et oui, alors... c'était quelque chose, alors ce n'était pas de l'adultère, c'était quelque chose que la tradition au Moyen-Orient permettait, parce que la servante de la femme n'était pas considérée comme une personne, mais comme un bien appartenant à sa maîtresse. Donc c'est vraiment, elle est instrumentalisée, bia, cette servante, pour donner naissance à une descendance au profit de Rachel. Il y a une distinction ce matin, je crois, entre procréation assistée. Voilà, hein, là, évidemment, elle n'a pas donné ses gamètes, Rachel. Alors, il serait assez... on voit bien que Rachel a peur de perdre l'amour de Jacob. Et c'est ça l'enjeu, hein, en n'étant pas fécond. Et je pense que si cette peur a diminué, cette peur était quand même très forte dans une culture moyenne-orientale, on l'a évoqué ce matin, cette peur de perdre l'amour, eh bien, moi j'ai entendu des témoignages de couples inféconds, et il y a cette peur. Alors, comment considérer, on peut dire, spirituellement et éthiquement, d'un point de vue chrétien, cette figure de Rachel, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir tendance à l'opposer à la figure d'Anne? Et alors, ce qui est très frappant, qu'on compare les deux, Anne, la spirituelle, qui prie, parce que elle a aussi cette souffrance de la stérilité, et Rachel qui recourt à l'astuce. Alors j'y reviendrai, un des noms des enfants qu'elle donne, la racine hébraïque, ça peut donner astuce. Alors ce qui me frappe dans les histoires comparées de Rachel et d'Anne, c'est que Rachel a peur de ne plus être aimée, alors qu'Anne a l'assurance de l'amour de son mari. Et ça, c'est une énorme différence. Que Rachel a une attitude revendicative, que Anne a plutôt épanche son âme. Hein, l'amertume dans l'âme, elle pria et pleura. Elle s'épanche devant Dieu. Alors, face à ce modèle d'Anne qui s'en remet uniquement à Dieu, est-ce que il y a une condamnation claire de l'attitude de Rachel? Alors, c'est à nous de tirer la conclusion du récit. Il y a dans la Bible des lois, des enseignements, et puis il y a des récits où la morale n'est pas donnée par l'auteur. C'est au lecteur de tirer la morale de l'histoire. Mais il est vrai que quand on rapproche la parole de Rachel Donne-moi un fils, sinon je meurs. Et la fin de Rachel, c'est assez impressionnant, parce que Rachel meurt en couche. Et alors qu'elle avait eu Joseph, là, naturellement, elle dit encore « ajoute », ce qui est le sens du mot « Joseph ». Elle dit à Dieu « ajoute », pour qu'elle soit à égalité, ses enfants, avec Léa. Et cet ajout lui sera fatal. C'est Benjamin qui va, à sa naissance, donc, causer la mort de sa mère, et sa mère va l'appeler Ben-Oni, le fils de ma douleur. Et heureusement, je dirais, le père va modifier le nom en Ben-Yamin, le fils de ma droite. Donc, c'est vrai que le récit semble au moins mettre en garde contre cet acharnement procréatif. Et ce qui est très impressionnant aussi, c'est les noms sont très importants dans la Bible, hein, les noms qu'on donne. Léa donne des noms qui sont plutôt de l'ordre de la louange, de la reconnaissance à ses enfants, et Rachel donne des noms qui sont vraiment de l'ordre de la revendication. « Dieu m'a rendu justice », et elle appelle son fils Dan, juge. « J'ai livré un combat surhumain contre ma sœur et je l'ai emporté ». Et elle appela son fils du nom de Nephtali, combat. Combat, astuce. On voit là qu'on est dans une attitude agressive. Et d'ailleurs, c'est intéressant, les descendants, les Danites et les Nephtalites seront des combattants. Alors, est-ce que il faudrait en tirer une conclusion d'éthique biblique binaire en disant « Celui qui recourt à une astuce technique et dans l'esprit de Rachel, il faut lui opposer l'attitude entièrement spirituelle de d'Anne. Je pense qu'on peut ne pas être dans cette logique binaire. Et je vous proposais un autre récit qui m'a beaucoup impressionné, qui lui est tout à fait contemporain, mais qui est aussi une démarche de foi. C'est le témoignage de Caroline et Claude, qui ont eu des jumelles par ICSI. Après un parcours de 10 ans, ils ont commencé, ils n'avaient pas tout de suite, ils n'ont pas tout de suite commencé par l'ICSI. Hein. Ça a été un recours au milieu de leurs 10 années. Donc 10 ans de tentatives, d'échecs, de pauses, de réflexions. Et ce que je trouve très intéressant, c'est leur conclusion. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur qui, dans sa grâce, nous a donné des enfants. Nous avions imaginé une intervention miraculeuse de sa part sans avoir à passer dans les mains des médecins. Mais, en réalité, le miracle réside davantage dans le souffle de vie qu'il met dans cet œuf fraîchement fécondé. La main de l'homme a donné un coup de pouce, a mis les protagonistes en situation de bien faire, mais c'est Dieu qui a donné la vie. Ah, c'est très intéressant, c'est très intégré. On voit qu'il y a toute une réflexion là, et c'est une réflexion du couple aussi chrétien. La main, la technique, ce n'était qu'un coup de pouce, mais ils ont relu leur histoire et ils ont vu la main de Dieu dans leur histoire. Donc, on n'est pas obligé de opposer foi et technique, mais cette technique très intrusive demande une forte intégration. Et c'est vrai qu'on a parlé de parcours du combattant, et c'est tout à fait juste. Et si on ne veut pas s'engager, si on n'est pas sûr de s'engager dans ce parcours, je crois qu'il faut y renoncer. Mais si les chrétiens doivent d'abord se préoccuper de vivre en chrétien, ils ne doivent pas pour autant se désintéresser de la manière de vivre dans la cité et du bien des familles, des enfants qui les entourent, puisqu'ils doivent au contraire chercher le bien de la cité. Mais dans une cité pluraliste et dans une société individualiste, quelle morale commune promouvoir ? Quelle éthique sociale. Alors, les chrétiens sont mis au défi de cette technique de procréation médicalement assistée. Ils n'ont pas tous réagi de la même manière. Alors, en 1987, je crois que c'est la Congrégation pour la doctrine de la foi. Là, qui émet un texte qui s'appelle Donum Vitae, le don de la vie, et qui s'oppose à toute procréation médicalement assistée, y compris dans le couple. Alors, précisons, elle ne s'y oppose pas parce que c'est un moyen artificiel. Elle ne s'y oppose pas parce que c'est un moyen qui a nécessité la destruction d'embryons pour le mettre au point. Non, elle s'y oppose au nom de la dignité de la personne humaine, parce que la destruction de l'embryon humain va contre la dignité de la personne, et que la dissociation de l'union du couple et de la procréation va contre cette dignité de la personne. Donc, elle défend l'inviolabilité du droit à la vie de l'être humain innocent et l'originalité de la transmission de la vie. La transmission de la vie humaine a été confiée par la nature à un acte personnel. Voilà, la transmission de la vie humaine a été confiée par la nature. Alors là, c'est l'idée de loi naturelle, hein, qui est. Et donc, c'est aussi un concept qui est en souci de dialogue avec la société. Voilà, la nature, la loi naturelle, qui devrait être reconnue en raison par tous, nous enseigne que, eh bien, la procréation est un acte personnel. Or, l'assistance médicale à la procréation, en dissociant sexualité et fécondation, en fait un acte impersonnel. Alors, il faut dire que tous les éthiciens catholiques ne sont pas aussi tranchants. Et le père Patrick Verspuren, qui est un jésuite, qui est un pionnier de la bioéthique en France, considérait dans un article qu'un couple qui découvre après plusieurs années de véritable vie conjugale une certaine forme de stérilité, eh bien pour ce couple, la fécondation externe peut n'être que le prolongement de leur vie sexuelle et le moyen de concrétiser le vœu même de leur amour. Mais on voit bien que c'est bien dans le cadre d'un couple qui est déjà un couple solide. Alors, la position officielle du magistère a le mérite de la simplicité. C'est l'interdiction, pure et simple, morale, de toute procréation, y compris dans le couple. Et là, quand même, une grande difficulté pour elle. Comment expliquer à un couple que le fait de le fait de faire rencontrer leur gamète in vitro est quelque chose. Certes, c'est une technique dépersonnalisante, mais ce serait un péché en quelque sorte. Hein. Donc. Position simple, mais est-ce qu'elle est... Là aussi, c'est l'éthique doit pouvoir être mise en pratique. Donc, alors, dans la même année, il y a un texte de la Fédération protestante qui s'appelle « Biologie et éthique » de la Commission d'éthique de la Fédération protestante. Alors, qui se situe dans une toute autre perspective et qui dit « C'est dans la perspective de l'amour de la liberté et de la responsabilité parentale qu'on peut comprendre la procréation assistée. » Bon, amour, alors les grands mots, amour, liberté, responsabilité, et voilà, tant qu'il y a l'amour, la liberté, la responsabilité, eh bien, c'est la procréation médicalement assistée, au fond, n'est qu'une parenthèse technique. Alors, il y a une éthicienne catholique qui m'a fait remarquer que ça, parler de parenthèse technique pour la procréation pour les femmes, c'est bien un homme qui a inventé ça. Elle n'a pas tort. Alors théologiquement, ce texte de la Fédération protestante de 1987 se fonde sur l'image biblique de l'adoption. Il faut souligner le recours constant de la Bible au concept et à l'image de l'adoption. Nous sommes tous finalement des enfants adoptés par l'amour de leurs parents. Ce qui relativise les circonstances techniques ou naturelles de la fécondation. Alors, il me semble, moi, qu'il y a une spiritualisation un peu rapide et un oubli du corps dans ce plaquage de la théologie de l'adoption sur cette question de la procréation médicalement assistée, même si elle part de vérité. Tout enfant qui naît doit être accepté, adopté, par ses parents. Mais voilà, hein, il y a un peu un oubli du corps. Alors, en 1998, est paru un livre d'un anglican qui est vraiment une parution importante, John Wyatt, qui n'est pas un théologien, qui est un professeur de pédiatrie, et il fait preuve de créativité théologique en proposant, c'est quelqu'un qui a été beaucoup en dialogue avec des théologiens anglicans évangéliques, il propose le concept de restauration. Et il prend l'exemple du restaurateur de tableau qui doit restaurer le tableau en respectant l'intention du créateur. Et je trouve que c'est vraiment une métaphore tout à fait éclairante. Et dit, il faut se poser la question, est-ce que la technique respecte les intentions du créateur ? En faisant rencontrer in vitro les cellules sexuelles du couple, il semble que la fécondation in vitro, qui donne à un couple stérile la possibilité d'un enfant qui soit génétiquement le sien, peut être considérée comme une forme de technologie de la restauration. Oui, donc, donc la procréation assistée, mais sous condition, dans le couple, en considérant bien les risques pour la mère et l'enfant, en limitant le nombre d'embryons à féconder, en ne recourant pas à la congélation d'embryons. En revanche, il y a des pratiques de procréation médicalement assistée qui s'éloignent de l'intention du créateur. Et il en cite un certain nombre, le don d'embryons, de gamètes, les mères porteuses, qui séparent sexualité et procréation. Alors ça c'est intéressant parce que c'était la critique catholique et là il l'applique à d'autres méthodes de procréation qu'à la procréation dans le couple. Et ça paraît assez légitime. Là on est avec la mère porteuse, hein, on est vraiment dans une dissociation. Et alors c'est intéressant, il reproche à ces méthodes de sortir du cadre de la création, de séparer sexualité et procréation, et de détruire le lien biologique unique qui existe entre parents et enfants. Et voilà, disons qu'il y a eu toute une époque où les protestants s'opposaient aux catholiques en disant « Oui, vous êtes du côté de la nature, de la biologie, nous on est du côté de la liberté. » C'est peut-être un peu sommaire comme opposition. Et ils ont évolué d'ailleurs, on en parlera dans le texte de 2009, c'est intéressant de voir les évolutions. Alors, à ces objections, à certaines pratiques comme, de procréation assistée, à l'extrême comme les mères porteuses, on pourrait aussi avoir des objections supplémentaires. Sur la question des risques, est-ce que certaines innovations techniques, comme l'ICSI, ne s'affranchissent pas de certains filtres naturels que le créateur aurait mis en place. On s'est posé la question si on n'allait pas transmettre une stérilité des garçons à la génération suivante. C'est une question. Je n'ai pas de réponse. Il y a des gens qui ont des éléments de réponse scientifique. On en parlera. Mais il y a eu plus grave. Alors heureusement, on s'en est aperçu. On s'est aperçu qu'il y avait des hommes qui étaient porteurs sains d'une mutation qui donnait la mucoviscidose. Et ces porteurs sains étaient stériles. Ils ne pouvaient pas transmettre, le sperme ne passait pas, à cause d'une obstruction due à la mucoviscidose. Mais quand on allait ponctionner le sperme en amont dans l'appareil génital, on passait cette barrière, et donc on transmettait la mutation génétique de la mucoviscidose à l'enfant. C'est quand même extrêmement grave. Alors maintenant, on fait des recherches pour s'assurer que aucun des deux n'est porteur du couple demandeur de procréation assistée, n'est porteur. Mais ça interroge quand même. Et Jacques Testard, dans son dernier ouvrage, rapporte une récente observation suédoise qui avance que le retard mental serait plus fréquent chez les nourrissons conçus par ICSI. Voilà, Alors moi, j'ai pas les éléments. C'est souvent assez controversé, ces questions. Mais c'est en tout cas des questions hein, qu'il faut soulever, je crois. Il faut non seulement que la technique ne reste humaine, ne sorte pas du cadre, mais qu'elle ne mette pas l'humain en danger également. Alors, 2009, le groupe de travail bioéthique des évêques de France a produit un ouvrage qui est très intéressant, qui s'appelle Bioéthique, propos pour un dialogue, et qui est dans un tout autre esprit, mais qui a, il faut le dire aussi, un tout autre but que les doctrines de la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est vraiment le désir pour les catholiques d'être présents dans le débat avec des Français, avec des arguments compréhensibles et audibles par leurs interlocuteurs. Alors la notion clé dans ce propos pour un dialogue, c'est celle de respect. Respect de la femme. Et alors ce livre se réjouit d'une possibilité qui était relativement nouvelle. C'est un arrêté ministériel de 2008 qui permettait en fait la limitation de la congélation et de respecter les parents qui ne voulaient pas de congélation. Alors c'est acquis, on l'a entendu ce matin, mais moi j'ai entendu des couples qui se sont fait traiter d'idiots parce qu'ils refusaient la congélation, qu'ils voulaient limiter le nombre d'embryons féconds. Et là, quand même, il y a une évolution légale qui a tenu compte de cette réticence morale des couples et qui a fait passer le couple avant la technique. Alors, respect de l'embryon, on devrait reconnaître à l'être humain son statut de porteur de toutes les potentialités d'une personne humaine. Et donc là, la congélation et la destruction d'embryons devraient être évitées. Et ce texte prend l'exemple de la loi allemande qui demande de ne créer que le nombre d'embryons qu'on transfère. Donc on ne stocke pas. Hein. On crée que ce qu'on transfère. Respect de l'enfant. Alors là, c'est par rapport à l'accès à des couples, par exemple, de même sexe, à la procréation médicalement assistée. Respect des droits de l'enfant à naître dans une famille structurante et comme le fruit de l'amour des parents. Respect aussi du mariage. Ce texte dit que l'extension de l'aide médicale à la procréation aux personnes seules ou couples de même sexe affecterait et ne ferait qu'aggraver la distorsion des liens familiaux, pourtant précieux pour le développement de l'enfant. Ce texte dénonce aussi le don de gamètes anonyme, hein, ce don anonyme qu'il voit comme une double injustice, injustice pour le couple. Il n'est pas le fruit de l'amour d'un couple stable et injustice pour l'enfant, dont le secret sur les origines est gardé par l'institution, ce qui est quand même effectivement un problème. Bon, ce texte prend aussi position contre les mères porteuses. Alors, dans la même année, le groupe de travail bioéthique de la Fédération protestante auquel j'ai participé a publié des éléments de réflexion. L'occasion de ces états généraux de la bioéthique. Et je vois un certain nombre de parallèles, alors c'est intéressant avec le texte des évêques catholiques de France. Et donc il y a cette idée de respecter la femme qui doit. Donc le texte des évêques catholiques de France prend acte de la réalité de la procréation médicalement assistée. Hein, il ne dit pas, il dit, si on veut recourir à, eh bien dans ce cas-là, on doit le faire en respectant la femme, l'embryon, le mariage, etc. Alors le texte de la Fédération protestante, ce chapitre sur la procréation médicalement assistée que j'ai rédigé, eh bien je mettais l'accent sur le fait qu'il faudrait humaniser la procréation médicalement assistée. Qu'au fond, en mettant l'accent, l'État en mettant l'accent uniquement sur la performance technique, productiviste, eh bien, ne prenait pas assez en compte justement la démarche des parents. Donc, on trouve cette idée de respect aussi. Alors, sur le respect de l'embryon, là, il y a un débat interne au protestantisme. En gros, les évangéliques reconnaissent effectivement que la vie humaine commence à la conception. Il y a un débat du côté protestant. Donc, certains protestants considèrent que les embryons sans projet parentaux, on en a parlé, hein, il n'y a plus de projet de procréation, eh bien, peuvent être disponibles pour la recherche. Et dans ce même texte de la Fédération protestante, alors c'est intéressant, hein, les deux positions sont notées, d'autres considèrent que l'embryon n'est jamais sans relation humaine ou divine. Voilà, hein, d'un côté, plus de projet parental, plus de relations, donc ils sont éventuellement disponibles pour la recherche. De l'autre côté, l'idée que l'embryon n'est jamais sans relation humaine et divine, et que le sacrifier pour la recherche est une chosification inadmissible. Mais il y a quand même un consensus protestant dans ce texte pour dire que on devrait arrêter de produire des embryons entre eux. Et donc, il y a quand même une gêne, même ceux qui disent on pourrait s'en servir pour la recherche, il y a quand même une gêne avec ces embryons moraux, avec ces embryons surnuméraires. Et aussi qu'il faut chercher des solutions alternatives au recours à l'embryon pour la recherche, par exemple, sur les cellules souches, etc. Bon. Voilà, quand même une... Alors, je note que la théologie de l'adoption est absente de ce texte de 2009, hein, qui était sur lequel reposait le texte de 1987. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Alors, quel concept, au fond, les chrétiens catholiques et protestants cherchent-ils à mettre en avant en étant fidèles à leur source et en même temps en dialogue avec la société? Alors, c'est intéressant de voir, donc, Donum Vitae utilise le concept de nature. On sait que le concept de nature, aujourd'hui, c'est très difficile. Hein, aujourd'hui, on oppose nature et liberté. Le texte de la Fédération protestante de 87 prenait le concept d'adoption. C'est plus lisible, mais est-ce que c'est pas trop large? Et c'était très intéressant, ça rejoint votre remarque, Anne, ce matin, c'est que la démarche de l'adoption et de la procréation médicalement assistée, pour vous, sont des démarches différentes. J'ai noté. Alors, dans les textes de 2009, on voit d'autres notions qui sont mises en avant. La notion de respect, qui est beaucoup plus, effectivement, parlante. Le texte des évêques parle aussi de la raison et de la foi. Alors, je cite, « La raison et la foi peuvent proclamer ensemble qu'une éthique commune trouve son fondement dans le respect inconditionnel de l'être humain vulnérable. » Donc, la raison et la foi peuvent dire ensemble qu'il y a une éthique commune qui se fonde sur le respect inconditionnel de l'être humain vulnérable. Alors, dans le texte de la Fédération protestante, moi, j'utilise la notion de bon sens. Voilà, les chrétiens disent que dans le cadre de la création, il y a un certain ordre, mais même ceux qui ne se reconnaissent pas dans leurs convictions peuvent reconnaître que un cadre parental ordinaire, alors j'ai évité le mot normal, un cadre parental ordinaire, un père, une mère, une union stable, est un ordre conforme à l'intention du Créateur. Ceux qui ne partagent pas cette conviction peuvent cependant reconnaître qu'ils relèvent du bon sens de ne pas bouleverser cet ordre. Et on parle de raison, bon sens. Alors, je fais en fait allusion à un texte de Paul à Timothée. Et dans ce texte, Paul, en fait, le verbe utilisé, c'est sortir de l'ivresse. Le verbe grec signifie, c'est revenir au bon sens après avoir été ivre. C'est intéressant par rapport à l'ivresse technologique. Alors, ceci dit, ces arguments, c'est, on leur limite. Si on peut convenir avec raison et bon sens qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère, encore que ça commence à être difficile à défendre aujourd'hui, même ce qui paraissait encore évident il y a quelques années, est-ce la raison ou même le bon sens qui peuvent commander le respect de l'embryon humain congelé non implanté, sachant qu'il est une potentialité de potentialité? Donc, est-ce que c'est sur la base de la raison, même du bon sens, qu'on peut... Et la mère porteuse n'est-elle pas basée sur la raison du plus fort? Voilà, donc on voit la difficulté ici de ces concepts passerelles qui ont leurs limites. Alors, d'autant que certains, et je voudrais aborder la question de la mise en danger de la famille par ces techniques et l'extension de ces techniques de procréation médicalement assistée. Une psychanalyste, Elisabeth Roudinesco, mettait en cause cette idée que ces techniques mettraient en danger la famille. Elle parle au contraire de puissance de la famille. Et aujourd'hui, la famille n'a jamais été aussi puissante. Et puis, les normes ont changé. Et voilà, mais la procréation assistée, ça concerne que des petites minorités. Hein, on a vu 2% de naissances. Pourquoi est-ce que ça devrait inquiéter les familles? L'accès pour les homosexuels, mais c'est une toute, toute petite minorité. Donc en quoi? Alors, déjà, d'un point de vue éthique, je pourrais dire que même un mal qui est fait à quelqu'un qui n'est pas de ma famille me concerne. Je trouve que ce n'est pas éthique du tout comme raisonnement. Hein, dire que, bon, voilà, hein, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur coin. Le sort de l'enfant, c'est aussi important pour la société. Mais que répondre à cette affirmation massive d'une puissance de la famille aujourd'hui? Alors, je crois que la famille est fragilisée quand même, que ces idées et ces filiations possibles multiples fragilisent aussi la famille dans l'esprit. Ce n'est pas seulement l'impact sur les personnes directement concernées, c'est aussi l'impact social, psychologique. Et je crois qu'il y a vraiment un décalage entre les constructions intellectuelles et la réalité, je dirais, des familles aujourd'hui. Hein. Je prends une psychanalyste, Geneviève Delessy de Parseval, hein, spécialiste de l'accompagnement dans les procréations médicalement assistées. Et par rapport aux enfants avec issus d'un don anonyme, etc., elle prend au fond l'exemple des familles recomposées. Elle nous dresse le roman rose d'une multiparentalité. Alors je vous cite, une multiparentalité heureuse. Les réunions de famille deviendront de plus en plus multicomposées, de plus en plus social, le tout, il faut l'espérer, dans la plus grande transparence. Alors, j'étais très intéressé d'entendre une sociologue qui a travaillé sur la famille, qui a étudié avec Irène Théry, qui s'appelle Sophie Cadol. Lors d'un colloque à la Fédération protestante, elle s'étonnait qu'on prenne les familles recomposées comme des modèles, par exemple, pour les familles dites homoparentales. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle a observé ces familles recomposées. Et elle dit qu'elles sont le plus souvent que les autres, un lieu de rivalité, d'exclusion, de renvoi sur l'autre de ses responsabilités qui auraient dû être partagées, d'écartèlement de l'enfant entre son parent et son beau-parent. Donc, il me semble qu'il y a vraiment. Là, je pense que la démarche de dialogue des chrétiens, c'est un peu un renvoi au réel par rapport à ces constructions mentales. Au fond, il y a une idée aujourd'hui est parent celui qui veut être parent. C'est ce qu'on appelle par exemple pour les mères porteuses. La mère, la vraie mère, c'est celle qui est la mère d'intention, celle qui a voulu l'enfant. Mais quand l'enfant, il s'avère qu'il est handicapé, qu'on s'aperçoit qu'il est handicapé, ou etc. Est-ce qu'elle a toujours l'intention de... Alors, ce qui est très intéressant de constater par rapport à cette idée que l'homme, par sa volonté, maîtriserait la procréation, et donc c'est ce que l'homme veut qui compte, c'est la résistance de la nature. Et la nature résiste quand même, parce qu'il y a un taux d'échec. Alors, je sais bien qu'à Cochin, vous avez un taux de réussite très important, mais un taux qui reste, on parle de 15 à 20%, ce qui n'est pas si mal, mais avec des disparités très importantes. Et avec le facteur âge, plus l'âge de la mère est élevé, plus les chances de réussite sont faibles. Donc, une technique qui est quand même aléatoire. Testard est très pessimiste, il dit qu'on va. Il exagère un petit peu peut-être, hein. On dit qu'on ne fait pas mieux que dans les années 80. Je pense que là, il exagère peut-être un petit peu. Et même pour les thérapeutiques, on a beaucoup médiatisé la naissance d'Umuttala, ce bébé sélectionné par un double DPI. J'en ai parlé ce matin, pour être un donneur de sang de cordon pour soigner la maladie de sa sœur. Eh bien, le taux de réussite de cette technique est tellement faible que ça relève plus de l'exploit ou du miracle que d'une perspective thérapeutique. Alors, l'exploit, ça, c'est le côté du médecin. Le miracle. La démarche des parents est très intéressante. D'ailleurs, j'ai étudié ça. Friedman en parle et il y a un décalage entre la démarche des parents que je trouve très respectueuse finalement et la démarche de Friedman. Alors, cette idée que la nature résiste, il y a une philosophe qui s'appelle Catherine Malabou qui tire la leçon philosophique justement du fait qu'on ne peut pas programmer. L'idée de programmation génétique, elle est mise en échec par des facteurs environnementaux que j'appellerai pour faire. C'est un résumé très rapide de ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est le gène ne commande pas tout. La psychanalyste Monet de Baquin disait l'ADN n'est pas l'Adonaï. C'est une excellente. L'ADN n'est pas l'Adonaï. C'est pas le Seigneur, l'ADN. Eh bien oui, il y a des tas de facteurs qui expliquent d'ailleurs probablement le fait qu'on n'ait pas réussi le clonage humain. Et alors c'est très intéressant, c'est dans un article de la revue Esprit auquel je vous renvoie de janvier 2015, et elle explique que finalement les philosophes qui ont pensé, surtout à partir de Michel Foucault, de son idée de biopouvoir, ont pensé la biologie uniquement du point de vue de la maîtrise, mais ils n'ont pas pensé du point de vue de la résistance. Or, on s'aperçoit que, alors elle dit la biologie résiste. Je n'emploierai pas ce mot parce que la biologie, c'est la lecture humaine de la nature. La biologie ne crie pas. La biologie ne se plaint pas. En revanche, on peut dire que la nature crie, que la nature souffre. Donc voilà, en face de la prétention humaine à tout maîtriser, il y a aussi une résistance. Alors, ça pose quand même le problème de l'éthique sociale aujourd'hui, parce qu'on peut souscrire pour soi-même à une éthique chrétienne et se limiter à un cadre chrétien, mais on ne peut pas imposer à la société de souscrire à une éthique qui n'est pas de sa conviction. Pourtant, il faut bien des règles communes pour vivre ensemble, pour protéger aussi l'intérêt des plus faibles. C'est là le rôle de la loi, de protéger les plus faibles. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on vous dites limite, légale, on vous répond liberté et égalité. C'est massif. Que répondre voilà. Sinon que bah, ma liberté, elle ne va pas non plus nuire à l'autre. Mais c'est très difficile. Il y a toute une discussion sur l'impact pour des enfants d'être élevés par des couples homosexuels. Il y avait encore dans la revue Le Débat de janvier encore des discussions là-dessus. Ça paraît au final, les études ne paraissent pas, les études qui étaient avancées comme très favorables ne paraissent pas déterminantes. Mais voilà, hein, c'est le problème des études psychologiques, il y a un aspect subjectif. Qu'est-ce qu'on peut, quelle loi on peut fonder là-dessus? Donc c'est difficile. Et puis l'éthique, elle est toujours en situation. L'éthique ne doit pas être une éthique de situation, mais elle est toujours en situation. Aujourd'hui, nous sommes en France. La France a une culture de régulation par l'État, par les lois. Mais ce n'est pas la culture mondiale. Ce n'est pas la culture des pays anglo-saxons. Hein, ça, la régulation par le marché, plutôt. Et c'est vrai que voilà, il y a la loi de l'offre et la demande. Eh bien, ce modèle national, il est mis à mal par la mondialisation. Voilà, quand vous avez des cliniques qui proposent des services aux frontières de la France en Belgique, ou en Espagne, que la France n'offre pas, eh bien, quelle limite éthique on peut continuer à maintenir en France? Donc ce modèle de régulation par l'État national est menacé de rupture par la mondialisation. Alors, l'État tire un peu des sonnettes d'alarme de temps en temps. Il y a une circulaire du ministère de la Santé du 13 janvier 2013 qui a rappelé aux gynécologues qu'ils risquent une lourde amende et même une peine de prison s'ils orientent leurs patients vers un établissement étranger pour réaliser une PMA. Alors, en fait, la ministre a expliqué que ça visait surtout les questions de commission, parce qu'il y avait des cliniques espagnoles qui démarchaient carrément des gynécologues français en offrant des commissions si elles envoyaient ces cliniques des patientes en Espagne, dans leur clinique. Vous voyez, là, on est vraiment dans le marché, hein, l'offre et la demande avec la corruption par l'argent. Alors il y a un gynécologue célèbre qui s'est violemment emporté contre cette circulaire en disant quand une femme me demande, je lui donne un conseil, je le lui donne. Bon, ça pourrait être un sujet de discussion. Le fait de dire on est dans un pays qui a certaines limites, si j'adhère à ces limites, est-ce que moi-même je facilite de sortir de ces limites, ou est-ce que c'est le désir de la femme qui fait la loi? Et c'est toute la question aussi du rôle de la médecine. Est-ce qu'il est de réparer, soigner? Est-ce qu'il est de soulager? Oui. Mais est-ce qu'il est de soulager toute souffrance, y compris toute souffrance morale? C'est un peu plus... Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train de sortir du rôle de la médecine? Et puis, enfin, il faut dire que la situation de la demande est très différente de celle des années 70-80. Voilà, Amandine, c'était dans un couple, etc. Aujourd'hui, la demande, elle est massivement celle de femmes de 40 ans qui veulent, après une carrière, être fertiles. Hein. Voilà, j'ai cité quelqu'un. Aujourd'hui, ce sont des femmes de 40 ans en majorité qui consultent pour infertilité et qui auraient besoin d'un don d'ovocytes. Faut-il répondre à cette demande ? Alors là, c'est une question sociale. Est-ce que c'est à la société de répondre à cette demande? Est-ce que d'un point de vue de justice, d'équité sociale, il ne serait pas plus juste, en amont, de favoriser les conditions pour qu'une femme puisse à la fois travailler et être mère, par exemple? Voilà, on peut discuter. Évidemment, le problème, c'est que il y a une demande qui est immédiate. Hein, et donc, pourquoi ne pas favoriser des évolutions sociales plutôt que de recourir à une solution aléatoire in extremis? Et là, il faut dire qu'il y a vraiment un peu une escroquerie avec la congélation des ovocytes et la technique plus récente de la vitrification, qui semble plus efficace. On a parlé de ces firmes américaines qui proposaient à leurs employés femmes pour les exploiter plus longtemps. pour qu'elles soient actives plus longtemps, de retarder leur fécondité, congeler. On vous paye la congélation, vous pourrez être mère après quand vous voulez. Mais le temps ne s'arrête pas. On a parlé de... Donc il y a un vrai mensonge là. Il y a vraiment cette idée d'éternelle jeunesse. Et non, parce que d'abord, c'est pas sûr que des ovocytes décongelés produisent effectivement des embryons qui puissent être implantés. C'est des grossesses tardives, c'est quand même des risques pour la mère et pour l'enfant. Donc il y a vraiment un peu une illusion une offre qui est une illusion, et on pourrait socialement dire voilà, c'est pas sain socialement d'entretenir cette illusion, c'est pas à l'État non plus d'entretenir et de financer cette illusion. Voilà, on pourrait discuter dans ce sens-là. Alors, je voudrais terminer par un certain nombre de thèses fondées sur mes convictions théologiques, et je crois que l'éthique découle, pour moi, chrétien, l'éthique découle de ma foi. Alors, d'autres ont d'autres sources, mais je pense cependant que ce n'est pas étranger à l'humain. Tout d'abord, j'ai commencé cet exposé par une histoire de couple. Eh bien, la fécondité, c'est d'abord une histoire de couple et l'histoire du couple. On doit commencer par cela. C'est la première considération éthique qu'on doit avoir, qui doit précéder la considération qu'est-ce qui va marcher, etc. Et d'ailleurs, toujours Anne, ce matin, allait tout à fait dans ce sens-là, hein, en disant que voilà, il fallait mettre le projet du couple avant le projet des médecins. Il me semble que le recours à l'assistance médicale à la procréation est théologiquement et éthiquement fondé quand il restaure la fécondité créationnelle et il est service du prochain. Donc, et ça c'est audible, la médecine doit être au service du prochain. Alors, il y a une difficulté. Hein, le rôle de la médecine, c'est soigner, réparer, c'est aussi soulager. Mais là, quelle est l'extension du domaine du soulagement? Et voilà, est-ce au médecin de soulager tous les maux de la société? Et est-ce par une réponse médicale? Alors, c'est donc concevable dans une théologie de la restauration du cadre créé, pas quand ça sort du cadre de cette création, de ce service du prochain, quand ça perturbe le couple ou l'enfant par l'introduction d'un tiers donneur, quand on invente des fécondités non créées. Bon, voilà, on peut parler au clonage, là c'est la science-fiction, du clonage, ça c'est de la science-fiction. Mais voilà, hein, on donne la possibilité à des couples qui sont naturellement stériles d'avoir des enfants. Ça sort du cadre de la création quand cette technique, dont le but était de donner, de mettre au monde des enfants, sert à sélectionner, hein, l'eugénisme, les enfants à naître. Alors, il y a quand même, il faut bien le dire, je crois, des points de débat par rapport au rôle de la médecine. Est-ce que le diagnostic préimplantatoire qui évite d'implanter un embryon porteur d'une maladie génétique grave, c'est le cadre particulièrement grave, hein, c'est la loi française, est-ce que c'est un soin? Alors on pourrait dire que détruire un embryon n'est pas le soigner, voilà, mais éviter de transmettre une maladie génétique, c'est quand même un enjeu. Quel est le statut exact de cet embryon qui n'est pas implanté? Hein, donc on ne sait pas s'il a la capacité de se développer. Bon, je pense qu'on pourra en débattre. Mais ceci dit, le diagnostic préimplantatoire, quoi qu'il en soit, pose la question du jusqu'où. Actuellement, ça a été dit, on ne doit rechercher qu'une seule maladie génétique. Hein, mais il a été question de l'étendre à la trisomie. Or, la trisomie, là, voilà, c'est pas... c'est pas létal, c'est pas la mucoviscidose, donc hein, c'est plutôt des personnes qui ont un handicap Voilà. Donc c'est ça, c'est pour l'instant, je dirais la fenêtre est étroite, très contrôlée, l'accès au DPI, mais est-ce qu'on n'est pas, on va pas ouvrir grand la porte à un véritable eugénisme? Alors, en conclusion, je voudrais dire qu'il est juste de respecter l'intégrité du couple, il est juste de préserver l'intérêt de l'enfant à avoir un père et une mère, il n'est pas juste d'ouvrir à tous des techniques coûteuses et discriminatoires quand elles vont contre cet intérêt de l'enfant. Il est juste de protéger les femmes contre l'exploitation de leur corps et de continuer à interdire la gestation pour autrui. Je n'aime pas du tout, d'ailleurs, cette formule, je ne l'utilise pas. C'est un acronyme pratique, mais je trouve que ça fait passer à la trappe, justement. Vous voyez que le mot « mère », les anglo-saxons parlaient de « surrogate mother ». Il y avait « mère » dans le hein, « mère de substitution ». Vous voyez que le mot « mère » passe à la trappe. C'est la procréatrice, c'est la fonction. Hein, elle est réduite à une fonction. Je vous remercie. Et... Oh, bien. Thank you.